Bonjour à chacun et à chacune. C'est toujours avec plaisir que je me retrouve ici à Grasse. On est toujours chez nous. Et c'est chez nous pas pour deux raisons, parce qu'on habite ici au Rouret, pas loin. On a notre maison de famille et puis on est dans la maison du Seigneur. Nous sommes frères et sœurs et c'est une joie de se retrouver ce matin pour le louer, pour le chanter. Je voudrais simplement vous présenter les salutations de mon église en région parisienne, où nous habitons aussi, en dehors de ce temps de vacances, l'église de Saint-Maur, et puis vous apportez aussi les salutations de mes collègues de la commission de service et de référence de nos églises, CAEF, qui se réuniront fin septembre ici en région niçoise. Donc on aura l'occasion peut-être de se revoir à cette occasion, peut-être pas moi, mais d'autres collègues de la commission de service. Je voulais ce matin vous parler d'un proverbe, ou deux proverbes. Est-ce que vous connaissez quelques proverbes courants en français ? Je vous écoute. Alors ? Voilà, un exemple. Un autre. Ouais, voilà, encore. Ouais. Et puis j'ai un petit peu plus loin. Pierre qui roule. Voilà. Qui sème le vent. Voilà. Et je vais m'appesantir un peu sur le dernier là. Qui sème le vent, récolte la tempête. Alors est-ce que c'est réellement un proverbe? C'est-à-dire dans le sens où est-ce que ce proverbe qu'on dit en français est-il présent dans le livre des proverbes? Oui, peut-être. L'idée y est, mais pas le terme exact. Vous le trouvez dans le proverbe 22, au chapitre 22, et au verset 8, il est dit « Qui sème l'injustice moissonnera le malheur ». On retrouve un peu la même idée, hein. Mais ce n'est pas textuellement le proverbe dont on parlait tout à l'instant. En fait, ce proverbe qui sème le vent, récolte la tempête, vient d'un autre texte qui est dans le livre d'Osée, que je vous invite à suivre. Ouvrez votre Bible donc dans ce livre du prophète Osée, au chapitre 8 et au verset 7. Il est dit exactement, Osée 8, verset 7, ils ont semé le vent et ils moissonneront la tempête. Donc le voilà notre proverbe dans son intégralité, dans les mots exacts en fait. Alors, pourquoi Osée vient de dire ces paroles? On va essayer un peu de se replonger dans le contexte de ce prophète. Osée était un prophète en Israël, dans le royaume du Nord. Il était contemporain d'Ésaïe, qui exerçait son ministère de prophète, lui, en Juda. Et il a exercé son ministère environ pendant une quarantaine d'années, à partir de 750 avant Jésus-Christ, à partir de la fin du règne du roi qui s'appelait Jéroboam II. Et il a prophétisé jusqu'après l'invasion et le démantèlement d'Israël par l'Assyrie en 722 avec la destruction de Samarie. Et Osée va dénoncer en fait la corruption morale, la corruption sociale et politique avec un accent mis sur l'infidélité religieuse du peuple qu'incarne le sanctuaire qu'ils avaient élevé à Bethel avec un veau d'or, édifié donc par Jéroboam Ier. Vous voyez donc le contexte, un temple, Bethel, qui signifie la maison de Dieu, Bethel, la maison de Dieu. Dans cette maison de Dieu, on avait mis une idole, un veau d'or construit de main d'homme et qui était adoré. Une pratique qui venait donc du peuple originel de cette région des Cananéens. Et Israël avait adopté aussi ce culte qui allait jusqu'à polluer le culte rendu à l'Éternel. Et donc, les conséquences de cette idolâtrie et de ce culte avec ce veau d'or, c'était que Osée a prononcé un jugement contre le peuple d'Israël, contre le royaume du Nord. Et c'est tout le début de ce chapitre 8 qui est le deuxième avertissement que donne en fait Osée à son peuple. Et nous lisons à partir du verset 1. Osée chapitre 8, verset 1. « Embouche donc le corps. C'est comme un aigle sur le pays de l'Éternel. Car ils ont violé mon alliance. Ils ont transgressé ma loi. Ils crient vers moi. Oui, toi, notre Dieu, nous te connaissons. Mais Israël a rejeté le bien. C'est pourquoi l'ennemi le poursuivra. Il a choisi des rois, mais sans me consulter. Il a nommé des chefs sans mon approbation. Il a utilisé son or et son argent pour fabriquer des idoles qui causeront sa perte. Ton veau, ô Samarie, je le rejette. Oui, comme toi, ma colère s'est enflammée. Combien de temps encore seras-tu incapable de pureté? Car ton veau, il vient d'Israël, un artisan l'a fait. Il n'est pas Dieu, il sera mis en pièces, le veau de Samarie. » Voilà ce qui justifiait la colère de l'Éternel vis-à-vis de son peuple, cette idolâtrie. Et par rapport à cette idolâtrie, qui n'est que du vent, les conséquences vont en être une tempête. Verset 7, un petit peu juste après, « Ils ont semé le vent et ils moissonneront la tempête. » Voilà ce qui va faire que l'Éternel va juger son peuple, cette idolâtrie. « Blé sans épi ne produira pas de farine, et même s'il en produirait, ce sont des étrangers qui le dévoreront. » Un jugement va venir contre ce royaume du Nord. Et tout le ministère d'Osée va être d'annoncer ce jugement. Annonce du jugement, mais aussi annonce du salut et de la grâce de Dieu. Vous avez accompli peut-être des mauvaises choses, vous êtes écarté de Dieu, mais Dieu est un Dieu qui fait grâce. Et si vous revenez à lui, alors je différerai mon jugement contre vous. Mais trop c'est trop. Et la coupe déborde. Le jugement va tomber sans tarder par le roi des princes, le roi d'Assyrie. Nous le voyons juste à partir du verset 8. Oui, Israël a été dévoré. Le voici désormais au milieu des nations comme un objet indésirable. Car lui, il est allé s'adresser à Assur, la Syrie. Un onagre sauvage garde sa liberté, mais les gens d'Éphraïm ont été achetés par des amants. Et ils ont beau faire des présents aux nations, je vais les rassembler. Et ils dépériront très bientôt sous le joug du roi des princes, c'est-à-dire ce roi d'Assyrie. Voilà ce qu'il va en coûter au peuple du Nord d'avoir été idolâtre, d'avoir établi une alliance avec un peuple païen, de s'être prostitué par rapport à ce que l'Éternel demande. L'impureté qui envahit tout ce peuple au travers de ses dirigeants et qui retombe sur lui. Un jugement. Mais que fallait-il faire pour échapper à ce jugement? Simplement, ce que Dieu a toujours dit à son peuple, nous le voyons deux pages plus loin, au chapitre 10 du même prophète Osée et au verset 12. Vous avez semé le vent et vous allez récolter la tempête. mais semez pour la justice et vous moissonnerez le fruit de la bonté. Défrichez-vous un champ nouveau et voici qu'il est temps de se tourner vers l'Éternel en attendant qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir la justice pour vous. Semez pour la justice et vous moissonnerez le fruit de la bonté. Voilà, voilà ce que Dieu attend de son peuple. Voilà ce que l'Éternel proclame au travers de la bouche d'Osée. Revenez à moi. Laissez le vent et plutôt prenez cette justice que je vous offre. Un autre exemple était sans doute présent dans la mémoire des Israélites. C'était la prédication de Jonas à Ninive. Rappelez-vous, cette ville pécheresse pour laquelle Jonas avait proclamé en faisant le tour de la ville le jugement. Et quelle avait été la réaction des Ninivites? Ils s'étaient repentis. Ils s'étaient couverts de sacs et de cendres. Et quelle a été la conséquence de cette repentance? Le jugement de Dieu sur cette ville et sur ce peuple avait été différé. Le jugement arrivera, mais plus tard. Centaines d'années plus tard après, pour Ninive. Et là aussi, pour ce peuple du Nord, pour Israël, s'il se repent, Dieu différera son jugement. Je n'ai pas dit que Dieu l'abolirait, non. Ce que Dieu a dit reste. Ce que Dieu a établi, il le fera. Et le jugement tombera, mais il différera. Et ce n'est pas cette génération qui forcément va subir ce jugement. Mais dans ce cas-là, nous verrons que le jugement va venir. Et l'histoire nous le montre qu'en 722, le roi d'Assyrie va assiéger et détruire cette ville de Samarie et va déporter ces Israélites. Voilà. Le jugement, je vous offre la possibilité de différer ce jugement, semer pour la justice et vous moissonnerez le fruit de la bonté de Dieu. Mais voilà, verset 13, vous avez cultivé de la méchanceté et vous avez moissonné de l'injustice et du mensonge. Vous en avez mangé le fruit car vous avez placé votre confiance dans votre politique et dans la multitude de vos guerriers, c'est-à-dire pas en moi, pas en l'Éternel. C'est pourquoi chez ton peuple on entendra un bruit tumultueux. Toutes vos forteresses seront détruites, comme pour Beth Arbel l'a été par Salman en ce jour de combat où l'on a renversé la ville sur sa population. Voilà le triste sort que vous vaudra Bethel à cause de l'excès de la méchanceté qui est la vôtre. Le roi d'Israël dès l'aurore ne sera plus. Alors vous allez me dire, ouais, ça c'est de l'histoire ancienne. Ça ne me concerne pas. Ben, détrompez-vous. D'abord parce que c'est la parole de Dieu et que la parole de Dieu est éternelle et qu'elle parle, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, mais la même idée est reprise dans le Nouveau Testament. Paul, en particulier, va dire la même chose aux Galates. Et nous le voyons dans le livre des Galates, dans l'Épître des Galates, au chapitre 6 et au verset 7 en particulier. Galates 6, verset 7. Paul dit ceci, ne vous faites pas d'illusions, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris, on récolte ce que l'on a semé. La même idée, Ancien, Nouveau Testament. On récolte ce que l'on a semé. Si l'on a semé du vent, on récoltera la tempête, mais si l'on a semé la justice, alors on récoltera de meilleures choses. Nous sommes responsables de nos choix et des voies que nous empruntons. Celui qui sème pour satisfaire sa propre nature récoltera ce que produit la nature humaine, c'est-à-dire la corruption, nous est-il dit au verset 8. Mais celui qui sème pour l'Éternel moissonnera tout ce que produit l'Esprit, c'est-à-dire la vie éternelle. Alors, on a le choix, effectivement, de semer différentes choses. De semer ce qui vient de nous-mêmes, ou de semer ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Libre à nous, dans cette semence que nous voyons. Mais qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est le meilleur, en fait, hein, à votre avis? Semer du vent ou semer pour la justice? Semer par nous-mêmes ou pour nous-mêmes? Ou semer par l'Esprit de Dieu? Responsable de nos choix, responsable des chemins que nous empruntons. Parce qu'il y a des semences qui mènent à la mort, c'est ce qui nous est dit ici, la corruption, c'est la mort. Et puis il y a des semences qui mènent à la vie. Des semences pour la vie éternelle et qui sont inspirées par l'Esprit de Dieu. Alors on peut se poser la question, quelle est la bonne semence à utiliser, celle qui mène à la vie éternelle? Et c'est l'apôtre Pierre qui va nous en donner un élément de réponse. Première lettre de Pierre au chapitre 1er et au verset 23. Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, tout homme est comme l'herbe des prés, toute gloire humaine comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Oui, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Vous êtes né à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle. Et cette semence, c'est la parole vivante et éternelle de Dieu. Voilà cette semence immortelle. Voilà la bonne nouvelle que nous avons à proclamer, à diffuser, à planter autour de nous. Cet évangile qui nous a été annoncé et qui nous a parlé, qui nous a réconciliés avec Dieu notre Père et qui nous a fait passer de la mort à la vie. On peut aussi regarder au Seigneur lui-même qui nous enseigne par rapport à cette semence. Cette semence de vie, nous le voyons en particulier dans Matthieu, chapitre 13. Vous rappelez ce chapitre? Il y a deux paraboles. Lesquelles? Enfin, deux, il y a plusieurs, mais deux principales. La parabole du semeur, bien sûr, et puis la deuxième qui lui fait un petit peu plus loin, toujours dans le même chapitre. Et la parabole des deux semences, hein? Le blé et l'ivraie. C'est ce chapitre qui contient donc ces paraboles de la semence. Je relirai juste les explications que le Seigneur lui-même donne de ces deux paraboles quand il prend ses disciples à part et qu'il leur explique ce que signifient ces deux paraboles. D'abord, chapitre 13, verset 18, il dit ceci. « Vous donc, Écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume de Dieu et ne le comprend pas, l'esprit du mal vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie, mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruit, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre, enfin, a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 30, chez un autre 60, et chez un autre 100. Et puis la deuxième explication de Matthieu 13, oui. Matthieu 13, verset 18 à 23, ce que je viens de lire là. Et un petit peu plus loin, verset 36, toujours du même chapitre. Jésus laissa la foule et rentra dans la maison. Ses disciples vinrent auprès de lui et lui demandèrent : Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Il leur répondit : Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume de Dieu. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent l'esprit du mal. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Quand on arrache la mauvaise herbe et que l'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui insistent les autres à pécher et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente et où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, entende. On a l'explication par Jésus lui-même de la semence, du semeur, de ce qu'il faut faire et comment le faire. Relisez pour vous-même ce chapitre 13 et ces paraboles, cette semaine par exemple, reméditez-les pour vous-même. Et vous reverrez, comme tout à nouveau peut-être, ce que le Seigneur veut nous dire. La semence, c'est effectivement le message qui concerne le royaume de Dieu, ce qui nous est dit au verset 19, c'est-à-dire la parole de Dieu qui transforme les hommes pour qu'ils fassent partie de ce royaume. Et puis, ils deviendront à leur tour la bonne semence de Dieu, c'est le verset 38 qui nous le dit. Et ils resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. La semence de Dieu est vie, car elle nous fait passer de la mort à la vie. Si nous acceptons le sacrifice de Jésus pour nous sauver de la mort, nous étions morts parce que nous étions pécheurs. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est Paul qui nous le rappelle en Romains chapitre 6, verset 23. Alors, la semence, parole de Dieu, mais la semence dans ce monde, c'est aussi nous-mêmes. Nous sommes semence de Dieu. Nous sommes semence parce que nous ensemençons notre monde par notre témoignage, par notre manière d'être, par notre éthique, par la vie du Seigneur et son esprit qui nous anime. Mais ce n'est pas toujours facile, d'être des témoins fidèles dans notre monde. Il y aura de plus en plus un fossé entre ce que le monde propose et ce que dit la parole de Dieu et ce qu'elle nous enseigne, et la manière dont nous avons à nous comporter par rapport au monde. Nous aurons de plus en plus de difficultés à être des témoins fidèles. Vous serez des tribulations. Mais prenez courage, dit le Seigneur, j'ai vaincu le monde. Sachons que Dieu nous précède pour être ses témoins, là où il nous a placés, dans notre famille, dans notre entourage, auprès de nos voisins, auprès de nos amis, auprès de nos collègues. Soyons des témoins fidèles. Soyons cette semence de Dieu qui ensemence et qui parle au nom du Seigneur et qui annonce sa parole, mais qui aussi est lui-même une semence. Et qui, nous avons à germer là où Dieu nous a placés, à être des plantes qui resplendissent de la gloire de Dieu. Et il nous promet que notre travail ne sera pas vain. Psaume 126, versets 5 et 6. Qui sème dans les larmes, moissonne avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant pour porter sa semence, revient rempli de joie sous le poids de ses gerbes. Dieu nous fait des promesses. Si nous semons sa parole, si nous sommes sa semence dans ce monde, alors nous verrons les fruits de Dieu. Pas de ce que nous pouvons faire, non, mais simplement de la parole que nous pouvons annoncer, de cette parole que nous pouvons témoigner, de la vie qui nous anime, parce que c'est le Seigneur qui vit en nous, alors nous verrons des fruits. C'est sa promesse. Des hommes et des femmes se tourneront vers le Seigneur parce qu'ils seront convaincus de péché et que c'est le Saint-Esprit lui-même qui les convaincra de venir à lui. Qui sème dans les larmes moissonne avec des cris de joie. Soyons donc cette semence de Dieu pour ce monde et sa lumière. Soyons aussi son sel qui donne du goût à ce monde. Soyons cette semence que Jésus dit être tombé dans la bonne terre et qui porte 30, 60 ou 100 fruits. Soyons ces inséminateurs spirituels de notre monde, ceux qui à la fois portent la semence dans le monde et qui sont aussi la semence dans le monde. Prions ensemble. Seigneur, tu nous as rappelé ce matin que nous avons à semer pour la justice, à semer pour ta gloire et pas à semer du vent. Merci parce que les fruits de cette semence, Seigneur, te rendront gloire elle-même. Merci parce que par notre témoignage, tu veux que des hommes et des femmes se tournent vers toi, entendent ta parole de salut. Donne-nous d'être de ces fidèles témoins, de ceux et celles qui sèment la bonne parole, Seigneur, la bonne nouvelle de ton royaume autour de nous. Merci parce que tu nous as fait ces collaborateurs avec toi. Tu nous as fait des personnes, des hommes et des femmes, des semeurs aussi de parole, de ta parole autour de nous. Seigneur, donne-nous d'être fidèles à cette tâche, d'être des témoins fidèles de ta grâce, de ton amour. Garde-nous aussi de tout mal et permets aussi que d'autres autour de nous puissent, par cette semence, te connaître et te découvrir et qu'ils puissent être au bénéfice du fruit de la vie éternelle. C'est en ton nom que nous te prions et pour ta gloire. Amen.